Titan Mag. Ti comme Titan.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titan.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle.
Laurent.
À la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent.
Dans le cadre de son partenariat avec la librairie Majolire, le Titan Mag est allé à la rencontre de Louis-Pascal Jacquemont, auteur d'une biographie d'Irène Joliot-Curie, publiée en 2014 par les éditions Odile Jacob. Le livre trace le portrait d'une femme profondément engagée dans la recherche scientifique, féministe convaincue, mère attentive de deux enfants, passionnée de politique, pacifiste, Irène Joliot-Curie, qui s'était dépensée sans compter pour soigner sur le terrain les blessés de la guerre de 14-18, a déployé avec une force rare les ressources d'une intelligence hors du commun pour mieux comprendre le phénomène de la radioactivité. Agrégé d'histoire, diplômé en droit et en sciences politiques, Louis-Pascal Jacquemont est inspecteur d'académie honoraire. Il enseigne maintenant à Sciences Po Paris. Il est co-auteur d'un livre publié chez Belin en 2010, « La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte ».
Et quelques repères biographiques avant de démarrer cet entretien. Irène Joliot-Curie est née en 1897, fille de Pierre et Marie Curie. Son père meurt en 1906. Elle épouse Frédéric Joliot en 1926. Une fille Hélène en 1927, un fils Pierre en 1932. Elle reçoit avec son mari le prix Nobel de chimie en 1935. Elle meurt en 1956. Écoutons Dominique Molin interroger Louis-Pascal Jacquemont.
Louis-Pascal Jacquemont, si vous voulez, nous allons commencer cet entretien par quelque chose qui a été déterminant dans sa vie.
Alors la guerre de 14-18. Sa mère Marie Curie équipe des unités ambulantes avec des appareils radiologiques pour aller sur le champ de bataille, examiner les blessés. Et sa fille, qui a 17 ans, la suit et devient très active.
Alors une première chose, c'est que Marie Curie a un trait de génie lorsqu'elle s'installe. Elle prend la succession de Pierre Curie. C'est de considérer que le métier qu'elle fait ne peut pas se comprendre uniquement en vase clos dans un laboratoire qui serait un laboratoire de physique ou de chimie. Mais que ça doit être opératoire avec l'industrie et avec les différents domaines de la société. Donc très vite, elle va développer des liens avec le domaine agricole, puisque le radium, la dose de radon, ce sont des dosages que l'on peut faire dans les terrains, donc la géologie, et puis avec le médical. Parce qu'on s'aperçoit que le radon, le radium, si vous voulez, ou le polonium, sont des éléments qui permettent de soigner, même s'il faut du temps pour se rendre compte que ça permet aussi de détruire les tissus et ça peut avoir des conséquences dramatiques en même temps que ça permet de soigner. Donc cette jonction polyvalente avec le domaine de la recherche pure, c'est véritablement une invention de Marie Curie. Un trait de génie de ce point de vue-là. Donc l'Institut du radium, il est en face de l'Institut Pasteur. Parce que l'entité, c'est l'Institut Curie, maintenant, si vous voulez. Donc l'entité, c'est effectivement la jonction des deux domaines qu'il considère comme fondamentaux. Et donc par rapport à cela, Irène Curie va baigner dans cette idée qu'il y a une interaction. L'autre aspect, c'est qu'en découvrant le radium et en découvrant le polonium, non seulement Marie Curie et Pierre Curie ont découvert des choses fondamentales, mais ils ont, d'une certaine manière, pu donner au laboratoire Pasteur un certain nombre de corps, de composés, qui vont permettre de soigner. Et en même temps, ils ont découvert ce qu'on appelle la radioactivité naturelle. Donc, le phénomène que l'on voit quand on fait une radiographie aux rayons X n'est ni plus ni moins que l'utilisation de la radioactivité naturelle. Marie Curie se rend très vite compte que l'utilisation des rayons X est restée quasiment confidentielle, à part Becquerel, Antoine Becquerel, dont le nom est devenu celui d'un hôpital parisien, et puis chez La Cassagne, donc au laboratoire Pasteur, il y a très peu d'endroits où on l'utilise. Et donc elle a une double idée. Et il faut bien voir que pendant le début de la guerre, elle se dit « mais au mois de septembre 1914, on a inventé les taxis de la Marne pour emmener des soldats sur le front. Et si on équipait des voitures itinérante, avec un système aux rayons X, on pourrait examiner les blessés, non pas en les faisant venir du front sur les hôpitaux, mais en allant directement sur le front. Et elle obtient d'un propriétaire qui est assez voisin de son laboratoire la possibilité d'équiper deux voitures Renault avec ce matériel. Et pour pouvoir transporter si vous voulez, le matériel, notamment ce qui va servir à faire les rayons X, on utilise ce qu'on appelle les ampoules de radon. Or, l'organisme qui à Paris fabrique les ampoules de radon, c'est le laboratoire Curie. Donc elle est au cœur, si vous voulez, du système. Donc on va équiper les voitures et effectivement, on va former des cohortes d'infirmières pour utiliser... Bon, au début, c'est Marie Curie qui s'y colle. Hein. Elle va... Elle a besoin de main-d'œuvre. Et comme sa fille fait le siège, parce qu'elle lui écrit, depuis la déclaration de guerre, Irène Curie lui écrit tous les jours en lui disant « Je veux servir à quelque chose. Quand est-ce que tu me fais revenir à... » Elle est à la Request. « Quand est-ce que tu me fais revenir à Paris pour faire quelque chose avec toi pour la guerre ?» Et elle tient même un journal, hein, ce journal de bord sur la guerre. Et à ce moment-là, Marie Curie a l'idée de la faire revenir pour l'aider dans sa tâche. Mais au bout d'un mois, elle dit « Mais elle peut se débrouiller toute seule. Elle a 17 ans, mais ça fait rien. Elle peut se débrouiller toute seule. » Alors on voit cette jeune fille qui est sur le front d'Ardennes, ou sur le front belge, ou après sur le front de Champagne, et qui affronte, c'est le mot, qui affronte les médecins militaires. Parce que les médecins militaires, il n'y en a quasiment aucun qui pense que c'est intéressant d'utiliser la radiographie pour pouvoir loger les projectiles et pouvoir opérer correctement. Il a fallu à un moment donné, elle se heurte à un médecin militaire qui fait partie de l'état-major, qui lui dit que c'est une gamine, qu'elle n'y connaît rien. Elle lui répond que s'il savait autant de trigonométrie qu'elle en sait, il ne serait pas au grade où il est. Donc vous voyez que les confrontations, ce type-là a 55 ans, hein. Elle en a 17 à côté. Elle fait la radiographie, lui persiste, et l'intervention chirurgicale se fait sur le côté gauche ou du côté droit. Moyennant quoi, le blessé continue à saigner, à perdre, etc. Et finalement, il se résout à le faire du côté qui était prévu. Et après, effectivement, il va devenir un des soutiens, si je puis dire, d'Irène, parce qu'effectivement, ils se rendent compte que c'est... Et là, j'ai trouvé énormément de lettres d'anciens blessés qui remercient Irène de les avoir sauvés parce que, grâce à ces radiographies, ils ont pu survivre, alors que, vu les méthodes de l'époque un peu empiriques, ils risquaient d'y laisser leur peau. Et donc, Irène va... Dans cette période-là, elle cumule, elle va être formatrice d'infirmière pour la radiographie. En même temps, elle reprend ses études, puisqu'elle a passé le baccalauréat en 1914. Elle reprend son cycle d'études à la Sorbonne, donc dans les périodes où elle peut revenir du front et elle fait ses certificats de licence. Donc pendant toute la guerre, elle termine en 1919, elle a une licence et elle prolonge cette licence de physique par une licence de mathématiques. Et en même temps, elle passe le permis de conduire. Il a fallu une signature spéciale d'un ministre pour qu'elle puisse avoir le droit de conduire, parce que, un, c'était pas autorisé aux femmes, et deux, encore moins autorisé aux gamines de 19 ans. Donc vous imaginez bien que la situation à laquelle elle est. Ce qu'il faut bien voir, par contre, c'est que son exposition, aussi bien de la mère que de la fille, aux rayons X, puisqu'on travaillait à main nue sur le matériau, avec très très peu de protection, est au cœur du problème de la leucémie aiguë qui vont les emporter l'une et l'autre. Le démarrage se fait à ce moment-là, après avec des effets d'accélération sur d'autres éléments, mais on voit bien, les médecins le confirment, que c'est à ce moment-là qu'Irène contracte d'une certaine manière ce qui l'emportera ultérieurement. Il faut bien voir que Marie Curie a vécu 66 ans, Irène 59. Oui, donc elle est partie beaucoup plus tôt par rapport et Frédéric. Alors c'est pas tout à fait le même problème, mais il y a des choses voisines. C'est pas les rayons X, mais c'est le polonium. C'est 56 ans aussi. Thank you.
Couleur FM 97.1 avec Louis-Pascal Jacquemont, notre invité à Majolire, en compagnie de Dominique Molin. Nous venons d'entendre Samson François au piano dans le prélude numéro 4 en mi mineur de l'album Chopin, Nocturne et Prélude.
Alors, elle se marie en 1926 avec Frédéric Joliot et sa mère, Marie Curie, exige qu'elle signe un contrat pour assurer le maintien dans la famille de la propriété du radium.
Le bon sens paysan. Oui, on a toujours une vision de Marie Curie comme un personnage. Je ne veux pas du tout démolir le personnage de Marie Curie, mais bon, elle était quand même près de ses sous. Bon, parcimonieuse, enfin, faut quand même voir certaines circonstances où elle est très âpre, pour simplifier. Alors certes, elle n'a pas toujours roulé sur l'or, mais il faut être clair, la famille n'est pas une famille, c'est une famille de petite noblesse terrienne polonaise, dont les terres ont été en partie confisquées au XIXe siècle, mais qui a largement trouvé les moyens de survivre. Sachez quand même que sa mère vient régulièrement chaque année passer les hivers à Nice dans la station thermale pour soigner ses problèmes pulmonaires. Elle vient d'ailleurs avec sa fille, ce qui n'empêche pas que sa fille soit emportée par le typhus, sa fille aînée soit emportée par le typhus à l'époque. Mais on voit bien que c'est une famille qui voyage à travers l'Europe alors qu'elle est dans un pays en partie occupé par les Russes du côté de Varsovie, occupé par les Autrichiens sur le sud où il y a une autre partie de la famille qui réside, donc on ne peut pas dire qu'elle soit complètement à côté des choses. Donc elle a le sens de la propriété et bien entendu, elle va à chaque fois, il y a plusieurs indices qui montrent qu'elle fait très attention à préserver les possessions, les propriétés. Alors déjà, c'est Marie Curie qui est à l'origine de la construction de la maison de Sceaux à Paris. Après avoir partagé avec Pierre Curie, c'est très original, ils ont avec les Perrin, les Langevin, il y a une quatrième famille, ils ont acheté un immeuble en copropriété, ce qui était original pour l'époque, rue Froidevaux. Et d'ailleurs, la famille, les petits-enfants, disposent encore de cet immeuble. Ensuite, donc, leur maison à Sceaux. Puis Marie Curie fait construire une maison à l'Arquest. Et ensuite, comme elle préfère la Méditerranée, elle fait construire une autre maison à Cavalère. On a quand même certains revenus pour pouvoir faire cela. La maison de Cavalère ira à Èves, la maison de l'Arquest va à Irène. Et la maison de Sceaux, primitivement, était prévue qu'elle était pour Marie pour ses vieux jours. Et en fait, elle reviendra à Irène et Frédéric. Et je vous signale que c'est Hélène, c'est sa fille, qui l'occupe. Et lorsque je suis allé la rencontrer, la maison est quasiment dans l'état où l'ont laissé Irène et Frédéric, ce qui m'a permis d'ouvrir la bibliothèque d'Irène Joliot-Curie et de voir l'ensemble de ses bouquins. La seule chose qu'elle ait changée, c'est la cheminée. Vous voyez, il y a encore le piano, enfin bon, tout est disposé, le terrain de tennis, enfin, etc. Donc, sens de la propriété, effectivement, au moment du mariage, c'est vrai qu'il n'est pas le gendre idéal. D'abord, il n'a pas son baccalauréat. Certes, il est passé par une école d'ingénieurs, mais il n'a pas son baccalauréat. Il n'est pas normalien, il n'est pas universitaire. Donc, elle l'a embauché parce que c'était l'étudiant de Paul Langevin, et donc, elle en a fait son préparateur. Mais n'imaginez pas qu'un jour, un beau matin, Irène lui dirait « Maman, je m'en vais. Je quitte l'appartement parce que je me marie ». Et Marie était suffoquée en entendant cela. Elle arrête de déjeuner et elle lui dit mais comment tu nous quittes ? Et puis la conversation continue, elle s'éloigne. Et puis elle revient vers elle et dit mais au fait, c'est qui ? Donc, vous voyez, c'est... Ah bon, c'est Frédéric ? Mais tu n'y penses pas. Bon collaborateur. Enfin, c'est totalement inattendu. Hein. La situation est assez cocasse. C'est Eve qui le rapporte. Donc elle se méfie de ce jeune homme. Dont, alors là aussi, il faut voir, le père de Frédéric est d'une famille qui a fait de mauvaises affaires, notamment avec la crise de 1847. Et donc, il y a une suspicion que ces Alsaciens-là, ils ne sont pas forcément fiables, même s'ils ont remonté une affaire par la suite. Donc elle s'en méfie, alors elle va organiser la succession pour Irène. C'est-à-dire que toutes les propriétés de Marie iront à Irène. Et dans toutes les propriétés, il y a le gramme de radium qui lui a été offert par les Américaines. Donc elle fait en sorte qu'à la fois la fondation, c'est-à-dire une sorte une collecte d'argent qui est dans une banque en Suisse, à Lausanne et à Genève, que le gramme de radium et que les propriétés restent la propriété exclusive d'Irène. Et donc il y a des problèmes parce qu'il faudrait qu'il y ait des... On ne peut pas faire comme cela parce qu'en plus, Irène est une femme. Donc il faudrait que ce soit des hommes qui soient à la tête. Donc on va même imaginer d'avoir un homme de paille qui va être le propriétaire intermédiaire pour permettre à Irène de ne pas passer l'héritage à Frédéric. Ça, c'est Marie. L'essentiel des lettres de l'été 1926, avant que le mariage ne soit conclu en octobre, est consacré à ces problèmes-là, dans l'échange. Donc ça vous montre une Marie Curie qui, au-delà du talent et du génie, est aussi quelqu'un qui, sur le plan très matériel, s'est très bien balisé, etc. Bon, certes, il y avait peut-être des raisons, hein, sa vie personnelle et le fait qu'elle se retrouve veuve en 1906 ne lui ont pas facilité les choses. Mais voilà, je voudrais non pas écorner la Vierge de la science, mais la ramener un peu sur terre.
Voilà, si on a le temps, on reviendra sur l'idée que Irène Joliot-Curie se fait du mariage, mais j'aimerais que vous évoquiez quelque chose qui semble avoir été très important. C'est le combat des suffragettes anglaises, qui semble avoir été très important pour
Irène.
Son envie, sa volonté de défendre la question de l'égalité.
C'est un peu le hasard qui fait que Marie Curie, après le scandale de sa liaison avec Paul Langevin, là aussi, ce qui est scandaleux, c'est que ce soit elle, veuve, qui soit prise à partie, avec des manifestations sous ses fenêtres en disant « Ah bah la Polonaise, qu'elle reparte en Pologne », etc., alors qu'elle est, par mariage, elle est devenue française, et ses filles sont françaises, bien entendu. Donc, après ce scandale, elle est très fatiguée, et elle a les premiers symptômes des effets des rayons X, c'est-à-dire les problèmes de cataracte, problèmes de vue, problèmes de nécrose sur les mains. Et donc, elle part se faire soigner à Évian, puis dans les Alpes, et puis une amie anglaise, qui est aussi une physicienne, Hertha Ayrton, lui demande de venir à Highcliffe-on-Sea, donc au nord-est de Londres, pour passer quelque temps pour se reposer. Et cette physicienne anglaise a la particularité d'être membre éminent de la National Suffrage League, c'est-à-dire de cet organisme qui soutient les suffragettes anglaises au moment où elles réclament leur droit de vote. Et effectivement, Irène, Ève et Marie se rendent chez elle. Or, Irène avait une idée un petit peu distanciée par rapport à la question des féministes, puisqu'elle écrit une des premières lettres, elle écrit à Hertha Ayrton, mais à quoi ça rime ? Il ne se passe pas un jour sans qu'un ministre ne risque pas sa vie à cause des suffragettes. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'agitation à Londres à ce moment-là. Donc elle a une idée plutôt négative. Et elle a l'occasion de rencontrer, de discuter avec Hertha Ayrton et surtout de discuter avec Christabel Pankhurst, c'est-à-dire l'égérie, si je peux dire, des suffragettes londoniennes, parce que Hertha Ayrton a accueilli Miss Pankhurst à la suite de l'emprisonnement des suffragettes par les policiers et de la répression qui a été menée contre ces suffragettes emprisonnées, puisque, un, on leur interdisait de manger, leur interdisait de bouger, et elles étaient tabassées. Donc, elles ont réussi à rendre publique leur situation, et surtout quand on les a libérées, on a bien vu qu'elles étaient en très très mauvais état. Donc, Christabel Pankhurst a séjourné à Highcliffe-on-Sea, et donc a été aussi un des interlocutrices d'Irène Curie. Et on voit bien comment elle bascule. Là, elle dit, mais effectivement, c'est une cause qui vaut la peine d'être défendue. Et là, elle va, je veux dire, il y a une espèce de réveil du politique, même si elle avait déjà quelques sensibilités politiques, ne serait-ce que parce que le combat au sujet de Dreyfus ne l'avait pas laissé indifférente. Et donc, elle va commencer à prendre fait et cause pour toute une série de débats politiques, l'histoire Sacco et Vanzetti, 1920, les mutins de la mer Noire, et toute une série d'événements. Elle écrit même, en 1924, il faut fusiller quelques banquiers. Comme ça, on se rassure que mettre en place de nouvelles lois pour pouvoir rendre la société moins dépendante de quelques capitalistes. Et oui, donc elle a déjà un vocabulaire qui a beaucoup bougé par rapport à cela. Mais du coup, le suffragisme prend sa source et puis elle est autour d'elle. Il y a plein de féministes qui sont les amis de sa mère ou qui sont en contact. Donc il y en a. Il y en a deux ou trois que je cite. Maîtresse-femme comme sa tante Bronia, qui crée l'Institut du Radium à Varsovie, et le premier sanatorium polonais à Zakopane. Il y a Camille Marbeau, qui est une femme de lettres, qui a créé la Société des gens de lettres, qui a épousé quelqu'un de beaucoup plus âgé qu'elle, qui est un mathématicien, Émile Borel, homme politique et directeur de l'école, sous-directeur de l'école normale supérieure. Donc un milieu dans lequel ces femmes-là ont une certaine indépendance et où les discussions autour du mariage, dans les veillées que l'on a à l'Arquest, par exemple. Et donc là, sur le mariage, il y a l'idée, elle a l'idée, comme celle de Marie Curie, qu'on n'épouse pas n'importe qui. Et puis surtout, ça doit être un compagnon, ça doit être un associé, et ce n'est pas un maître, ce n'est pas quelqu'un qui doit leur être attribué. Il y a véritablement cette perception des choses. Et donc, la conception même qu'elles ont du mariage est liée à cela. Alors effectivement, il y a des discussions très très vives. Je citais Einstein. Sachez quand même que pour Einstein, le mariage idéal, c'est d'avoir 7 femmes. Et pour d'autres, je pense à Jean Perrin, c'était important d'avoir quelques amours clandestines pour être encore mieux avec sa femme. Donc vous voyez, la philosophie qui entoure le mariage est quelquefois assez intéressante. On trouve la même chose chez Blum d'ailleurs, je vous signale, puisqu'il écrit un ouvrage qui s'appelle « Le mariage » et en partie rédigé quand il est à l'Arquest, lorsqu'il est présent chez Seignobos.
Alors vous dites que le féminisme d'Irène Joliot-Curie se forge à l'épreuve des faits. Ce n'est pas un féminisme idéologique.
Pas du tout. Enfin, c'est l'impression qu'elle m'a donnée, c'est que ce n'était pas du tout, c'était dans les actes, c'était dans l'évolution. Alors, il y a à la fois des choses qu'elle veut, très vite, c'est l'idée, il faut que les femmes aient le droit de vote. Et puis, avec la crise économique de 1929, elle bascule un petit peu, elle considère que le droit de vote n'est peut-être pas aussi important que le droit au travail. Parce que le droit au travail, c'est l'ouverture vers l'indépendance économique. Et que grâce à l'indépendance économique, or il se trouve que la vulgate marxiste, elle va dans ce sens-là. Donc la convergence, le glissement vers le marxisme se fait, ou le bolchevisme à l'époque, se fait un petit peu autour de ces idées-là en 1930. Donc elle est moins ouverte à l'idée du droit de vote indispensable, même si elle le considère comme un principe de fond. Elle va même à un moment donné dire, mais après tout, si les femmes ont droit de vote au municipal, ça devrait suffire. Puis après, on verra bien. La hantise qu'elle a, c'est ce qui s'est passé en 1933, c'est-à-dire pourquoi Hitler est arrivé au pouvoir dans un pays qui, avec la République de Weimar, avait octroyé en 1918 le droit de vote aux femmes. Là, la grande litanie véhiculée par les communistes, je vous le signale, ça a été de dire que c'est les femmes qui ont voté Hitler. C'est faux, c'est faux. Il y a tout un travail fait par Sechit Braunschweig en 1933-1934 qui démontre que ceux qui ont voté majoritairement pour Hitler sont les hommes. Et pas les femmes, contrairement à ce qui était véhiculé. Mais bon, ça a fait son chemin dans une société qui était quand même beaucoup plus patriarcale et machiste que la nôtre. Donc l'idée a cristallisé. Et en même temps, vous voyez, elle défend des causes. Quand elle devient ministre, elle dit « Je veux devenir ministre pour faire avancer la cause des femmes ». Et elle le dit clairement. Et puis elle se rend compte très vite, le jour où elle dit « Mais je veux parler à la radio, je vais présenter son directeur de cabinet », il dit « Ah non, votre ministre du tutelle s'appelle Jean Zay, il faut qu'il vous donne l'autorisation ». Il dit « Comment ça, il va m'autoriser à ?» Et puis effectivement, elle a une entrevue avec Jean Zay qui lui dit « Je vais parler de la situation des femmes, etc. » Elle dit « Non, votre portefeuille, c'est la recherche scientifique ». Alors elle dit « Ah bon, c'est comme ça, mais je parlerai quand même des femmes ». Et effectivement, elle fait l'enregistrement que l'on a, elle parle de tous les sujets, y compris la recherche scientifique, mais elle parle aussi de la cause des femmes et de la question du travail qui lui tenait à cœur. Et puis il y a dans son féminisme des choses qui sont très spontanées. Quand on l'interroge, par exemple, en 1946 sur les prostituées, elle dit « Mais ou bien la société les considère comme indispensables ?» Ben à ce moment-là, c'est un métier, il faut le prendre en compte. Ou alors, si on ne les considère pas, comme pas indispensables, à ce moment-là, il faut éradiquer. Comme ce n'est pas possible d'éradiquer, à vous de conclure. Autre spontanéité, 1944, dans une réunion, l'Union des femmes françaises, il y a une discussion autour de la maternité, et elle dit, non, le corps des femmes leur appartient. Donc le droit de procréer aussi, ça doit être une liberté. Bon, on la laisse dire, Et puis, quelques temps après, on dit à Frédéric faut pas qu'elle exagère quand même, hein, parce que la maternité, c'est une histoire de bourgeoise. Hein, le droit de maîtriser son corps, de procréer quand on veut, c'est une histoire de bourgeoise. Oui, parce que le côté communiste, on dit, bah oui, c'est malthusien, c'est une discussion voulue par les bourgeois pour tuer la classe ouvrière, c'est le bon moyen, donc, et la personne qui en parle, il s'appelle Maurice Thorez, hein, qui lui en parle. Et celle qui mène la danse dans cette affaire, c'est Jeannette Vermersch, future Madame Thorez, qui effectivement va dans le sens de, au contraire, il faut être nataliste, il faut être maternaliste. Donc, elle n'est pas membre du parti. Elle a donné son opinion, on n'est pas d'accord, ben, ma foi, elle la garde pour elle, et elle ne va pas faire de campagne pour cela. Troisième indice où véritablement on sent l'intuition, lorsqu'en 1948, elle vient aux États-Unis avec un visa que lui a accordé l'ambassade américaine pour aller faire une série de conférences et rencontrer Einstein à Princeton, elle se retrouve à l'aéroport de La Guardia, et puis là, elle ne comprend pas pourquoi. Elle voit passer tous les gens de l'avion, et on lui demande de rester dans un coin. Et puis au bout d'un moment, on lui dit bah oui, mais vous n'êtes pas persona grata sur le territoire américain. Donc elle demande des explications, elle voit ses amis qui l'attendent de l'autre côté, on alerte son mari, etc., alors qu'elle a un visa et tout. Et là, elle finit par avoir le supérieur du responsable du contrôle de l'immigration qui lui dit « Voilà, vous êtes communiste, c'est les débuts du macartisme, c'est le moment de la guerre froide où effectivement on refuse tous ceux qui sont taxés de communisme ou on les expulse lorsqu'ils sont aux États-Unis. » Et à ce moment-là, on lui dit « Vous êtes communiste, donc vous n'êtes pas persona grata, donc on va vous emmener à Ellis Island pour passer la nuit, et après vous reprenez l'avion pour rentrer à Paris. » Et là, elle a une réaction dans un anglais que je trouve très intéressant, parce que moi, je le comprends. C'est-à-dire qu'il est matinée, elle le parle à peu près comme moi. Donc, et elle dit « Mais vous n'y songez pas. Lui, il est communiste et est membre du parti, c'est son droit. Mais moi, je ne suis pas membre du parti, je ne suis pas communiste. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Cette histoire qui veut que, parce que mon mari serait communiste, je serais communiste. » Donc on voit bien que spontanément, elle dit, mais une femme, c'est pas une mineure intellectuelle. C'est pas parce que son mari a telles idées que forcément, elle partagera les mêmes idées ou qu'elle doit être taxée d'avoir les mêmes idées. Donc on sent bien dans cette prise de position, si je puis dire, la façon dont elle perçoit les choses, dont elle les ressent. Et souvent, elle réagit comme ça spontanément. Quand elle reçoit des jeunes femmes pour recruter dans son laboratoire, ou des jeunes hommes, il se dit que si on va au laboratoire Curie, il vaut mieux être une femme qu'un homme. Et à plusieurs reprises, elle dit aux jeunes gens qu'elle reçoit, elle leur dit mais moi, je n'ai rien à faire que vous soyez un homme ou une femme. Mon problème, c'est que vous soyez compétent. C'est la compétence scientifique qui m'intéresse. Et elle a une phrase qu'elle a eue en 1923, qu'elle répète sans arrêt en disant « La compétence scientifique, ce n'est pas un problème de sexe. » Donc c'est assez, là aussi, c'est assez vif, mais elle le fait spontanément.
Alors cette question des relations hommes-femmes, on fonctionne beaucoup sur des représentations, vous parlez d'un pensé social. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi dans les laboratoires de recherche, ce sont les hommes plutôt qui sont des physiciens et les femmes, elles, sont chimistes et biologistes.
Bon, ça c'est une thèse. Je l'ai citée parce qu'effectivement c'était intéressant de voir qu'il y avait là-dessus, il y avait une réflexion. C'est pas une thèse d'historien, c'est une thèse de sociologue qui laisse entendre que les jeunes gens ou les jeunes filles qui font des études de chimie, c'est parce que dans la chimie, il y a un aspect cuisine, il y a un aspect mélange, il y a un aspect, etc., qui laisserait entendre que... il y a une association impensée avec du féminin. Et par contre, la physique, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus lié à de l'instrumentation, c'est beaucoup plus violent, donc ça serait associé à du... Alors je l'ai cité parce que je trouve qu'elle est intéressante. Bon, ensuite elle a fait Flores pendant un certain temps. La façon dont je l'ai cité laisse quand même entendre que...
Thank you.
Couleur FM 97.1 avec Louis-Pascal Jacquemont et Dominique Molin à Majolire. Nous restons avec Samson François dans le prélude numéro 12 en sol dièse mineur de l'album Chopin Nocturne et Prélude.
C'est plus pour le fun, comme on dirait aujourd'hui.
Parlez-nous du prix Nobel. Elle a le prix Nobel de chimie avec qu'elle partage avec Frédéric Joliot à Stockholm. Et c'est elle qui a le discours de réception,
oui.
C'est elle qui ouvre...
Alors, le prix Nobel, bon, il faut savoir deux choses. Irène Joliot-Curie a failli en avoir trois. C'est quand même inattendu. Découverte du neutron, elle met le doigt dessus. Elle n'arrive pas à le désigner. Et c'est parce qu'il y a cet échange international qui fait que c'est effectivement un Anglais qui va, James Chadwick, qui va pouvoir nommer. Alors qu'ils étaient vraiment à deux doigts. Ensuite, les travaux qu'ils ont faits en... après le prix Nobel, notamment avec quelqu'un d'origine serbe, yougoslave, Pavle Savic, sur la fission, ce qui sera appelé la fission nucléaire, même chose. C'est le jour où elle reçoit l'article de Otto Hahn et Fred Schassner qui dit d'une certaine manière le phénomène, elle jette le journal à Pavle Savic, elle appelle tout de suite Frédéric, elle dit « Est-ce que tu as lu l'article en question ?» Et elle dit « Ben oui, vous avez frôlé la vérité. » Donc vous étiez à deux doigts de le découvrir. Et effectivement, dans les nominations pour le prix Nobel, Irène Joliot-Curie s'y retrouve avec Frédéric, donc en 1932, pour le neutron, avec Frédéric. S'y retrouve en 1934 et 35, c'est pour ça qu'ils l'ont en 1935, pour la radioactivité artificielle. Mais elle s'y retrouve également en 1939 pour la fission nucléaire. Elle s'y retrouve trois fois. La shortlist, c'est-à-dire la dernière étape, c'est 3 à 5 noms. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois... Elle a une intuition remarquable. Elle n'est pas empirique comme l'est Frédéric. Elle est beaucoup plus dans l'esprit des choses et elle cogite et elle trouve plein d'éléments, plein de pistes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on peut comprendre qu'à trois reprises, elle ait failli chaque fois découvrir quelque chose de fondamental. Enfin, elle a découvert des choses fondamentales, puisqu'à chaque fois, l'étape qu'elle a franchie a permis à d'autres de tout de suite, derrière, donner tout de suite le nom et découvrir le phénomène, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, le prix Nobel, elle est allée à Stockholm en 1911, quand sa mère... a obtenu son deuxième prix Nobel. Marie et Pierre Curie ont le premier prix Nobel de 1903. C'est sur insistance de Pierre Curie, d'ailleurs, ce qui leur vaut, elle, de ne pas avoir le droit de prendre la parole, Marie Curie, et ensuite d'avoir droit à une apostrophe du représentant du comité Nobel en disant « C'est comme dans la Bible, une femme est venue aider un homme pour avoir le prix Nobel ». C'est assez le propos de Santa Irenius, c'est assez incroyable pour l'époque. Ensuite, en 1911, Marie Curie, qui se débat dans le scandale Langevin, reçoit un télégramme lui disant qu'elle a le prix Nobel de chimie. Et 15 jours après, on lui envoie un autre télégramme pour lui dire qu'elle ferait mieux de ne pas se déplacer. Eh bien oui, parce que le scandale, c'est pas bien, etc. Donc elle leur écrit une lettre remarquable dont je cite en particulier la fin en disant... Je vais reprendre une formule que vous avez peut-être dû entendre récemment. Ce qui est privé est privé, ce qui est public est public. Donc, mais mieux dit que cela. Ensuite, elle assiste et effectivement, elle sent bien qu'on a dit à Marie Curie qu'elle avait le droit de prendre la parole. Effectivement, les prix Nobel prennent la parole, mais il faudrait qu'elle ait court son discours, il faudrait que ce soit, etc. Donc, plein de conditions. Et elle sent bien qu'il y a une gêne, qu'il y a une... Même si à côté, il y a un grand banquet des femmes qui l'accueillent, donc des féministes suédoises et qui vont lui faire plein de cadeaux, d'ailleurs. Et elle se souvient de cela, quand en 1935. Donc, elle impose, prendre la parole en premier. Deux, elle dit, puisque je suis théoriquement la chimiste et Frédéric le physicien, moi, je ferai la partie physique de notre découverte. Et effectivement, elle développe un discours sur l'aspect physique de leurs travaux, de leur découverte. Et puis à côté de cela, les petites piques que la presse ne manque pas de lui envoyer sur son attitude, sur le fait qu'on la considère comme une gamine, une adolescente qui passe son temps à retourner la médaille, à ouvrir son parchemin. Vous voyez un petit peu l'écart entre les deux.
Alors, dans son laboratoire, ses collègues, les femmes qui font une recherche d'aussi bonne qualité que les hommes, vous dites quand même qu'elles sont moins bien préparées moralement à mettre en valeur leurs résultats. Pourquoi ?
C'est elle qui le dit. C'est elle. Elle explique, parce qu'effectivement, je vais faire un travail qui prolongeait un travail qui avait été commencé sur l'exemple de Marie Curie. On a regardé un petit peu les recrutements des collaboratrices du laboratoire et des différentes femmes, parce que la légende veut que lorsque Marie Curie était à la tête du laboratoire, le nombre de femmes était très important et assez inédit. En fait, c'est contrevenu. Les 5 autres grands laboratoires parisiens ont la même répartition. Donc ça n'est pas un phénomène qui est propre au laboratoire Curie, c'est plus un phénomène sur le recrutement des étudiantes de la Sorbonne, puisqu'elles font la faculté des sciences de la Sorbonne qui se pose à ce moment-là. Et moi, j'ai prolongé le travail pour voir l'évolution du nombre de femmes dans le laboratoire. Alors, hormis la période de guerre, qui est un peu particulière, parce que les hommes sont mobilisés, et puis les réseaux de résistance, les appels à l'extérieur. Par contre, il y a un certain nombre de femmes qui restent dans le laboratoire. Lorsqu'elle est en directrice de l'Institut, le niveau de recrutement qu'elle a ne dépasse jamais 20%, 1 sur 5. Donc l'explication était à chercher pourquoi. Finalement, il y avait quasiment 25 à 28% à l'époque de Marie Curie. Pourquoi on descend à 20%? L'explication que l'on a, elle ressortit de la situation d'après la Seconde Guerre mondiale. D'une part, la période de la guerre a fait que plus que les garçons, les filles n'ont pas fait de prolongement d'études jusqu'au baccalauréat. La Seconde Guerre mondiale a été visiblement beaucoup plus cruelle pour les continuités d'études des filles que des garçons. Dangerosité du moment, etc. Il y a plein d'explications, mais en tout cas, c'est un phénomène. Donc, on trouve très peu d'étudiantes après. En tout cas, un nombre insuffisant d'étudiants pour alimenter les besoins. Ensuite, le deuxième phénomène, c'est qu'il y a une vogue pour les études de biologie. Et c'est vrai que les grands instituts de biologie se mettent en place à partir de 1945-46. Donc là aussi, il y a un recrutement. Et là, il y a un recrutement beaucoup plus fort de femmes, de filles dans les laboratoires qu'on en trouvera donc pour la physique et la chimie. Et le troisième élément, c'est que le déficit, alors je rejoins un petit peu l'histoire des impensés sociaux, le déficit est beaucoup plus fort chez les physiciennes que chez les chimistes. C'est-à-dire que les continuations d'études en physique sont quasi infinitésimales après la Seconde Guerre mondiale chez les filles, alors qu'elles sont un peu plus nombreuses chez les chimistes qui peuvent soit s'orienter vers les laboratoires de biologie, soit s'orienter vers les laboratoires médicaux, soit s'orienter vers les laboratoires comme le laboratoire Curie. Donc il y a cette convergence des phénomènes. Donc Irène n'est pas responsable, si je puis dire. Hein. C'est un phénomène de contexte général. La seule responsabilité qu'elle a, c'est que lorsqu'elle a été en mesure de nommer une femme chef de travaux dans son laboratoire, elle ne l'a pas fait. Elle a préféré un homme. Question de compétence, dit-elle.
Couleur FM 97.1, avec notre invité Louis-Pascal Jacquemont à Majolire, nous ne pouvions faire l'impasse de Chopin en hommage à la famille Curie. Et donc pour finir, Samson François dans le prélude numéro 20 en ut mineur du même album Chopin, Nocturne et Prélude.
Alors, elle est donc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, sous-secrétaire d'État aux recherches scientifiques.
Oui.
Elle va y rester combien ? 4 mois ? 5 mois ? Pourquoi cette période aussi brève ?
C'est même pas 4 mois, 5 mois, parce que sur les 5 mois, elle passe 3 mois dans les Alpes pour raison de santé.
Oui.
Elle n'arrête pas de voyager à l'Arc Ouest et d'aller et venir. Donc le temps qu'elle y passe est infinitésimal. Alors, première chose, elle était d'accord pour rentrer dans le ministère, mais elle avait affirmé tout de suite à Léon Blum qu'elle ne prendrait ce poste que pour une durée limitée, parce qu'elle se savait fatiguée, très fatiguée. Il y avait des symptômes qui montraient que c'était un début de tuberculose, donc elle savait qu'elle aurait des problèmes. Mais Léon Blum tenait à avoir Irène Joliot-Curie, parce que c'était aussi le nom Curie que l'on associait au Front populaire. Donc il y avait aussi cela. Il y avait la notoriété de la nobelisée, il y avait le fait qu'elle soit femme, et il y avait le fait qu'elle porte le nom Curie. D'ailleurs, officiellement, elle s'appelle Madame Joliot, et non pas Madame Curie-Joliot, Joliot-Curie. Elle a fini, et dans l'intitulé officiel du journal officiel, sa nomination, c'est Irène Joliot-Curie. Elle a bien imposé, si je puis dire, ce patronyme. Donc, il y a cette importance, si vous voulez, qu'on attribue au fait qu'elle soit présente, même si on sait qu'elle va rester un temps limité. Le deuxième point, c'est qu'avec Frédéric, les choses se passent assez mal, parce que lui, il prend très mal le fait qu'elle soit nommée ministre. Il pense que le poste devait lui revenir. Ensuite, et là, c'est pas faux, il sait qu'il est beaucoup plus compétent en termes administratifs qu'elle ne l'est. C'est vrai qu'elle sait organiser le bordel, alors que lui... Il est absolument un cartésien né. Donc ça posait quand même un problème, ça, c'est évident. Heureusement qu'elle a eu Pierre Bicard comme chef de cabinet, qui est un ami de Frédéric et qui était quelqu'un un peu de la trempe de Frédéric. Donc il y a cet élément-là. Et puis très vite, je crois, elle se rend compte, vous voyez, elle sait qu'elle veut faire avancer la cause des femmes, mais elle se rend compte des impuissances qui l'entourent. Donc, elle lance plein de chantiers. Elle lance, par exemple, une grande enquête pour savoir quel est l'équipement des laboratoires, parce qu'elle veut doubler l'équipement des laboratoires de physique, de physique et de chimie. Et ce qui remonte des universités, ce qui remonte donc des organismes laboratoires, c'est, au bout d'un mois, 10% des réponses. Elle dit, mais c'est lamentable. Ils sont lamentables, ces universitaires. C'est pas possible. On ne peut pas travailler dans ces conditions, vous voyez. Ensuite, elle modifie le statut des Sévriennes pour le rendre équivalent à celui des Normaliens d'Ulm, de façon à ce que les Sévriennes puissent aller faire de l'enseignement secondaire et de l'université, puissent faire des stages en laboratoire, ce qu'elles n'avaient pas le droit de faire. Donc ça, elle l'obtient assez vite, puisque ça se règle tout de suite. Léon Blum lui avait dit qu'il faut vulgariser la science. Donc elle a l'idée d'un grand musée, etc. Donc les premiers plans qu'elle met en place avec Pierre Bicard, c'est un peu l'idée du palais de la découverte qu'elle façonne. Ensuite, c'est l'augmentation des salaires des chercheurs. Et c'est tout un plan qu'elle met en place, ce plan sur lequel, c'est pas nouveau, parce que ce sont les idées d'Yves Perrin qui ont été traduites dans les années 30. Il y a plusieurs ouvrages qu'il a écrits là-dessus. Et ce qu'elle imagine, c'est quelque chose qui devient le CNRS, quelques temps après. Voilà, elle met tout ça en place. Mais en même temps, elle se dit, mais c'est pas possible. Moi, il faut que je demande l'autorisation de Jean Zay. Quand je veux discuter du budget, on me dit, c'est Henri Laugier qui est le conseiller de Jean Zay qui est chargé de... Et puis c'est Yves Perrin qui est le responsable de la Caisse nationale de la recherche avec qui je dois traiter. Yves Perrin, pas de problème. Mais Laugier, il me casse les pieds, c'est un administratif. Moi, j'aimerais bien qu'on avance, on avance là-dessus. Ensuite, elle s'aperçoit qu'il y a des contraintes. Alors, il y a deux contraintes sur lesquelles elle refuse de se plier. La première contrainte, c'est sur le courrier administratif. Comme elle reçoit beaucoup de courriers, on lui dit venez à telle manifestation, venez à telle cérémonie. Sa secrétaire écrit Madame Irène Joliot-Curie est empêchée, elle vous présente ses excuses. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle lit la lettre? Elle barre et elle dit mais je suis ni empêchée et je ne m'excuse pas. Pourquoi la langue de bois? C'est véritablement cela. Donc elle refuse de rentrer dans le système par rapport à cette affaire. Autre point où elle refuse aussi d'entrer dans le système, elle se rend au Conseil des ministres, qui ont lieu à Matignon à l'époque. Alors elle n'y est pas en permanence, parce que, une petite anecdote, elle est sous-secrétaire d'État Le mot secrétaire d'État n'existe pas dans la Constitution de la Troisième République. Il y a soit des ministres, soit des sous-secrétaires d'État. C'est les deux seuls échelons ministériels. Donc, le rang de sous-secrétaire d'État, c'est l'équivalent d'un ministre délégué aujourd'hui, pour pouvoir voir les correspondances. Donc, elle est souvent conviée au Conseil des ministres, mais pas systématiquement. Alors, un premier Conseil des ministres, elle y va, elle en ressort en disant, mais finalement, 2 heures pour accoucher de quoi ? Donc, le Conseil des ministres suivant, elle lance une opération dans son laboratoire, une expérience. Elle va au Conseil des ministres et au bout 1h30, elle leur dit « Je suis désolé, j'ai des relevés à faire, c'est plus important que vos discussions, je m'en vais. » Et donc, elle quitte. Elle quitte la séance au grand dam de Léon Blum qui dit « Ça, c'est du Irène Joliot-Curie. » Visiblement, il la connaît bien. Autre anecdote, elle arrive dans son ministère. Il lui faut 5 semaines avant d'avoir une secrétaire et d'avoir les huissiers et d'avoir le personnel. Donc, elle n'arrête pas de faire le siège de Jean Zay pour avoir le personnel dont elle a besoin. Et puis, dernière anecdote, elle va dans son laboratoire vers 5 heures du matin. Elle se rend au ministère à 6 heures et demie. Et la première fois qu'elle y va, il n'y a personne, sauf la dame qui fait le ménage. Et donc, elle est à la porte. Et la dame qui fait le ménage lui dit, brave dame, mais vous savez, les rendez-vous ne commencent pas avant 9 heures. Donc, vous ne pourrez pas rencontrer les ministres avant 9 heures. Elle dit, mais le ministre, c'est moi. Ah. Alors, inutile de vous dire, la dame devait passer par un trou de souris après avoir appris cela. Mais c'est assez amusant de voir cette distorsion et son mode de fonctionnement. Comme son état de santé ne s'améliore pas, comme surtout elle voit qu'il y a 2 choses qui, politiquement, ne passent pas, Léon Blum retarde le moment de présenter une loi devant le Parlement sur le droit de vote des femmes. En même temps, il commence à dire que le soutien à l'Espagne, voilà, on verra, il vaut mieux la non-intervention pour ne pas fâcher ses alliés radicaux. Eh bien, elle commence à dire que ça va bien et qu'on va mettre fin à cette expérience. Donc, elle prétexte du fait qu'il y a une maîtrise de conférence à la faculté de Paris qui va être ouverte au mois de septembre et que sur la radioactivité, elle est l'une des rares personnes compétentes. Et ensuite, qu'elle veut continuer ses travaux scientifiques avec son mari, ce qu'elle ne fera jamais, puisque les deux ne travaillent plus ensemble depuis le prix Nobel de 35. Donc, vous voyez, et elle ne rend pas publique sa démission. C'est parce qu'il y a des bruits dans les journaux, des rumeurs, que Jean Zay lui demande de rendre public un texte expliquant sa démission. Et j'explique comment, à l'aide d'une double négation, elle arrive à dire que finalement, mais non, je ne suis vraiment pas en désaccord avec vous. Mais à force de dire « mais non, c'est surtout ne croyez pas que je suis en désaccord avec vous », c'est une façon de dire « je ne suis pas du tout d'accord avec vous ». Donc voilà comment se situe son passage au ministère. Pourquoi il est aussi bref ?
Il est bref, il est très bref. Enfin, on va passer sur la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de sa nomination comme commissaire au commissariat à l'énergie atomique, parce que c'est en même temps le démarrage du programme nucléaire français.
Oui, les circonstances font qu'il y a convergence de deux projets. Il y a un projet qui est celui de Frédéric Joliot, professeur au Collège de France, qui en 1944, comme résistant dans le Front universitaire de libération, pense qu'il faut que la France retrouve son rang dans la physique internationale au lendemain de la guerre. Et le deuxième qui partage cette idée, c'est De Gaulle. Or, les intermédiaires, Jules Guéron, Lev Kovarsky, etc., qui étaient au Canada, ont rencontré De Gaulle et ont fait part du projet. Donc, De Gaulle demande à Frédéric Joliot, à Jules Guéron, Lev Kovarsky et à Irène Joliot-Curie d'écrire le texte de ce que pourrait être l'organisme à créer pour pouvoir redonner à la France cette place dans la physique internationale. Donc, ils sont à l'origine de la mise en place du texte, de l'ordonnance, qui crée le CEA. Il y a 6 réunions successives et au cours des 6 réunions, le chef d'orchestre est Frédéric, mais Irène travaille aussi sur les brouillons, le texte. Et le texte de l'ordonnance, c'est rigoureusement le texte que les 6 qui participent à son écriture préalable vont donner à De Gaulle. Il le reprend in extenso. Il y a juste un endroit où il y a eu une discussion qui est assez longue, c'est sur l'ajout du militaire, de la défense plus exactement, où De Gaulle a fini par imposer l'idée que ça devait servir à la fois à l'industrie et à la défense. Dans l'esprit de De Gaulle, on pense que dès ce moment-là, c'était l'idée de pouvoir créer une bombe atomique. Dans l'idée de Frédéric Joliot, c'était plus l'idée d'utiliser l'énergie atomique pour créer peut-être des engins de défense. atomiques, notamment type sous-marin, etc., hein, puisqu'on a des projets dans ce domaine. Et donc en 1945, fin 1945, officiellement, De Gaulle nomme, dans le cadre du gouvernement provisoire, il nomme Frédéric Joliot-Curie au commissaire à l'énergie atomique, il crée l'organisme, et il nomme 5 commissaires, parmi lesquels il y a une seule femme, qui est Irène Joliot-Curie. Donc effectivement, on a Francis Perrin, on a Pascal Auger, on a Jules Guéron, et Irène et Frédéric Joliot-Curie qui sont nommés. Elle occupe une place particulière, à la fois dans la physique internationale et dans la physique nucléaire, compte tenu de ce que je vous ai raconté sur ses découvertes successives. Mais c'est elle qui va prendre en charge, là aussi c'est un peu curieux, tout le domaine de la chimie. C'est elle qui va avoir la haute main sur la chimie, ce qui veut dire toute la prospection géologique pour trouver de l'uranium. Donc elle est à l'origine des débuts de recherche et de découverte géologique sur la Vendée, le Limousin, les bois noirs en forêt, et puis bien au-delà de Madagascar et des liens avec l'Union minière du Haut-Katanga, qui est une société belge, qui va prospecter au Gabon et qui prospecte au Cameroun. Et là, ce qui est curieux, c'est qu'elle ne s'est jamais inquiétée de la façon dont se faisait cette prospection et ses débuts d'exploitation, et notamment l'exploitation négrière qui a été menée. Dans les échanges que j'ai lus des lettres, autant elle s'est préoccupée de problèmes de décolonisation, autant elle n'a jamais mis le nez sur cet aspect. Et c'est vrai que dans son courrier, le mot « nègre » est courant, et pas le mot « noir ». Donc il faut penser que dans le contexte de l'époque, on n'a pas du tout fait distinguo là-dessus, ou vu l'aspect péjoratif du mot « nègre » dans l'affaire.
Est-ce que vous pourriez dire deux mots, à la rigueur, deux mots et demi sur une personne qui est très importante, me semble-t-il, dans la vie d'Irène Joliot-Curie, c'est son grand-père.
Ah, Eugène.
Deux mots, s'il vous plaît.
Eugène est quelqu'un de fascinant. J'essaye aujourd'hui d'obtenir qu'on publie la correspondance entre Eugène et Irène, parce que je trouve qu'elle est fabuleuse, il y a 150 lettres. Eugène est celui qui a pris en charge l'éducation d'Irène à la mort de son fils Pierre. Donc il est venu habiter avec Marie et il a contribué à suivre jusqu'en 1910 Ève et Irène. Or ce grand-père est quelqu'un d'assez fascinant puisque c'est un médecin qui, à jeune homme, 1920, était sur les barricades de 1848. Comme il faisait des études de médecine à Paris, il a soigné d'ailleurs des blessés des barricades à ce moment-là. Puis ensuite, il devient médecin inspecteur pour les enfants sous le Second Empire. Et en 1871, il a un appartement à Paris. Au moment de la Commune, il transforme son appartement en ambulance, en hôpital, si je puis dire, de campagne, où il va soigner aussi bien les blessés d'un côté et d'autre des soldats versaillais comme des communards. Et ensuite, il prend position très clairement. Il est alsacien d'origine. Il prend position très clairement pour défendre Dreyfus. Il participe à différentes manifestations. Donc c'est véritablement quelqu'un qui compte beaucoup dans la relation avec Irène et surtout qu'il a initié visiblement à la politique et à l'aspect social des choses. Voilà, mes deux mots, c'est un peu plus. Hein.
Louis-Pascal Jacquemont, avant de terminer cet entretien, nous allons lire un extrait de votre livre où il est question précisément de ce personnage très important pour Irène Joliot-Curie, son grand-père, Eugène Curie. Le docteur Eugène Curie était en effet un personnage attachant et singulier. Fils d'un médecin protestant et alsacien, Paul Curie, et d'Augustine Hoffer, Eugène Curie devient à son tour médecin, carrière plus lucrative que la recherche scientifique, pour pouvoir élever ses deux fils, Pierre et Jacques. Jeune homme épris d'idées libérales, il participe à la journée révolutionnaire du 24 février 1848, au cours de laquelle il est blessé d'une balle à la mâchoire. Cela lui vaut une décoration du gouvernement provisoire pour son honorable et courageuse conduite au service des blessés. Marié en 1855 à l'Alsacienne Sophie Claire de Pouilly, notre homme est d'humeur batailleuse, libre penseur, anticlérical, admirateur de la science, positiviste dans l'âme. Il a refusé de faire baptiser ses deux fils et affiche volontiers ses convictions politiques. Pendant la Commune de 1871, il installe une ambulance dans son appartement rue de la Visitation, au voisinage d'une barricade et porte secours aux blessés avec l'aide de ses fils, sans distinction de camp. Avec la Troisième République qui le promeut inspecteur du service de protection des enfants en bas âge dans la banlieue de Paris, il se fait ardent républicain. Admirateur de Victor Hugo, dont il récite les poèmes à ses petites filles. Il défend le point de vue de Dreyfusard et donne, semble-t-il, le goût de la discussion politique à ses fils puis à ses petits-enfants. Sa belle-fille, devenue veuve, se fait biographe dans le portrait qu'elle dresse de lui en 1924. Le docteur Eugène Curie avait une personnalité remarquable qui ne manquait pas de frapper ceux qui l'approchaient. C'était un homme de grande taille qui avait dû être blond dans sa jeunesse. Il avait de beaux yeux bleus dont la fraîcheur et l'éclat étaient restés intacts dans une vieillesse avancée. Ses yeux, qui avaient gardé une expression d'enfant, reflétaient à la fois la bonté et l'intelligence. Il avait en effet des capacités intellectuelles peu ordinaires, un goût très vif pour les sciences naturelles et un tempérament de savant. Idéaliste par tempérament, il s'était épris avec ardeur de la doctrine républicaine telle qu'elle inspirait les révolutionnaires de 1848. Dans la correspondance assidue qui lie particulièrement Irène à son grand-père aux périodes de vacances, avant comme après la disparition paternelle, la petite fille égrène au fil des jours ses réactions et ses sentiments. Elle raconte ses pensées, ses jeux et ses joies, tout en se soumettant de plus ou moins bonne grâce au tribunal du contrôle orthographique du grand-père. Mais elle a en retour toute la tendre affection d'un Eugène Curie qui se fait précepteur, et Irène réclame ses moments de douceur.
Voilà une bien belle émission terminée. Merci Louis-Pascal Jacquemont avec Dominique Molin. Merci à vous deux. Merci Dan. Merci Laurent.
Merci Titane.
À très bientôt.
Bye bye.